Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Oh, allez, hein. Ça dure 4 minutes, mais vous savez, 4 minutes dans une émission de 28, ça en prend beaucoup. Luc Mercure, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Vous savez pourquoi j'ai mis ça,
oui,
évidemment.
Bien sûr.
Parce que la semaine dernière, j'ai annoncé La Mesquita, qui est votre troisième livre, celui que vous avez écrit.
Et que c'est le sixième
c'est
que
le
j'ai
sixième.
Écrit, c'est le troisième qui est disponible au SQLA.
Au SQLA. Et c'est vous qui l'avez lu, bien évidemment.
Oui, c'est le deuxième que je lisais.
Et j'avais mis cette chanson-là parce qu'il en est question, à un moment donné, au tout début du livre, des deux protagonistes dit « Attends, t'es pas pour me chanter Toréador en garde. »
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est comme ça que j'avais envie de vous jeter le tapis rouge afin que vous le fouliez une nouvelle fois avec nous. Comment ça va, Luc?
Ça va très bien, merci.
Content que La Mesquita soit enfin disponible?
Oui, tout à fait. Quand on écrit, c'est parce qu'on veut procurer du plaisir, des émotions. Donc, si ça peut être disponible à des gens qui ne peuvent pas lire une version papier ou électronique, ben tant mieux.
Je parlais de triangle amoureux. Oui. Là, il est question d'un triangle aussi là-dedans.
Oui, il y a un triangle parce qu'il y a trois personnages, mais ce n'est pas vraiment un triangle amoureux. C'est-à-dire que c'est plus un roman choral où trois destins, les destins de trois personnes qui n'ont apparemment pas de lien en commun au départ vont s'entrecroiser. Alors, c'est deux femmes, un homme, deux Québécois, une Espagnole. Alors, on commence dans le premier chapitre avec une femme qui part de chez elle, qui s'appelle Maria, et qui s'en va en Espagne. Elle est québécoise. Enfin, elle habite au Québec. Elle a définitivement des problèmes avec l'affirmation de son identité. Le nom Maria, d'ailleurs, est assez international, assez ambigu. Et elle part, elle quitte sa maison, elle verrouille la porte de sa maison, elle jette les clés de sa maison dans un puisard et elle s'en va. Elle s'en va à l'aéroport, elle prend un avion pour Malaga.
Et elle veut l'Espagne, elle se sent espagnole?
Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on sent que c'est peut-être un peu un hasard si elle s'en va vers l'Espagne. D'autres, même si elle s'appelle Maria. D'autre part, il y a une Espagnole, Carmen, qui s'appelle Carmen, comme la Carmen, évidemment.
Oui. De Carmen Cita, oui.
C'est ça. Mm-hmm.
De M. Bizet.
Voilà. Et qui, elle, est catalane et qui quitte sa maison aussi, mais elle s'en va enseigner la poterie parce qu'elle est, elle est artiste. Elle s'en va enseigner la poterie à Grenade comment faire des azulejos. Mm-hmm. Et on comprend que c'est une femme qui a été blessée très profondément. Elle s'habille un peu comme Nina Hagen, qui est devenue son idole. Mais on comprend que c'est une carapace un peu. Et deuxième personnage. Et le troisième, c'est Yvan Desranleau. C'est un Québécois qui est né dans les années 50 et qui se sent rejeté un peu, qui a une très grande estime de lui-même, par contre, on suit un peu son évolution dans sa famille. Un père qui a tendance toujours à le rabaisser, une mère qui à la fois l'adule et aussi le stimule, mais aussi est extrêmement violente avec lui. Et il va devenir chanteur, il va devenir haut-de-contre parce qu'à l'adolescence, sa voix ne mue pas et il a toujours été élevé dans un univers musical et il va s'épanouir là-dedans sans faire une carrière vraiment à la hauteur de ce qu'il avait envisagé.
Voilà les trois personnages de La Mesquita.
Qui vont évoluer différemment, séparément dans la première partie. Mmh. Et dans la deuxième partie du roman, les destins vont s'entrecroiser. On comprend que puisque Maria s'en va en Espagne, elle va risquer de croiser Carmen. Mmh. Et on va comprendre que Maria et Yvan se sont connus avant que Maria s'en aille en Espagne. Et donc, à la fin, on va avoir une rencontre un peu symbolique pour fermer le troisième côté du triangle, entre Carmen et Yvan, qui sont les deux personnages qui n'avaient pas de lien du tout dans les deux premières parties. Voilà, donc c'est pas vraiment un triangle amoureux.
Non,
mais c'est un triangle, tout à fait. Voilà.
La Mesquita, donc, par Luc Mercure, ça vient de sortir en version audio au SQLA. Et en plus, vous nous avez apporté un livre dont vous nous aviez envie de nous parler, un autre livre que vous avez lu, mais que vous n'avez pas écrit, celui-là.
Non, et on signalait tantôt que certains usagers du SQLA sont contents d'avoir des lecteurs qui leur permettent d'avoir des livres disponibles. Mm-hmm. Ben, c'est un plaisir, en tout cas, la plupart du temps, aussi de lire, d'abord parce que j'aime lire, mais aussi parce qu'on découvre nous-mêmes des auteurs qu'on ne connaissait pas. Et c'est le cas avec le livre dont je vous parle. C'est un auteur, pourtant, qui est assez connu en Espagne, qui s'appelle Antonio Muñoz Molina. Il a gagné, entre autres, le Féminin étranger pour un de ses romans, Pleine lune, au début des années 90. Okay. Il a gagné, l'an dernier, je pense, le Prince des Asturies, qui est un des prix les plus prestigieux en Espagne. L'équivalent un peu, du gouverneur, des prix du gouverneur général ici. Et que je ne connaissais pas, à ma grande honte, et j'ai découvert vraiment un monument. C'est donc son roman, son avant-dernier roman, Dans la grande nuit des temps, que j'ai lu. C'est une brique de 750 pages, oui. 750 pages bien pleines, bien remplies. Donc, c'est vraiment du bonheur assuré pendant longtemps.
Ça représente combien d'heures de lecture à peu près?
Je ne sais pas, je ne les compte pas, mais ça a été... c'est long. C'est très, très long, d'autant plus que c'est, vous allez le voir, ça comporte certaines difficultés de lecture parce que c'est assez proustien comme écriture. Il y a des phrases peut-être pas aussi longues que celles de Proust, mais qui débordent souvent la demi-page. Bon, voilà. Alors, dans La grande nuit des temps, alors, au début du roman, on est à Penn Station en 1936 et un homme qui semble avoir un certain standing, mais qui manifestement est épuisé par le voyage qu'il a fait, arrive à Penn Station et monte les marches de cette gare-là. On comprend vite donc que c'est un Espagnol, un homme dans la fin de la quarantaine, et il a fui l'Espagne. On est en 1936, c'est donc le début de la guerre civile espagnole. On ne sait pas encore directement si c'est pour fuir la guerre qu'il est là. Et peu à peu, on va comprendre qu'il est venu à New York dans l'espoir, entre autres, de retrouver une femme qu'il a connue, une Américaine, qu'il a connue en Espagne, qui s'appelle Judith Bielli, et qui maintenant travaille, enseigne à 2 heures, dans une petite ville, à 2 heures au nord de New York, le long de l'Hudson. Et donc, au début du roman, donc, Ignacio Abel, qui est un architecte, arrive à Penn Station. Et à peu près 600 pages plus loin, sur les 750, il arrive dans la ville où habite Judith Bielli, à 2 heures de train. On comprend qu'évidemment, pendant ces 600 pages-là, il ne fait pas que raconter, décrire le paysage, même si les rues de l'automne, c'est très beau.
Mais déjà, de toute façon, bon, il se marie, il a 2 enfants.
Oui, c'est ça. Alors, on va découvrir d'abord sa passion pour Judith. Lui, qui est un homme qui a toujours eu une existence assez rangée. C'est un homme marié. Lui, il vient d'une famille assez modeste. Son père était maçon et lui, il est devenu architecte. Donc, il s'est hissé dans la hiérarchie sociale. Et il a aussi épousé une femme de bonne famille, Adela, avec laquelle il a eu 2 enfants, avec laquelle la relation n'est pas très, très satisfaisante. On comprend que c'est 2 univers qui sont confrontés. Et ça évoque déjà un peu les tensions qui se déroulent en Espagne aussi entre les franquistes et les républicains. Donc, on va découvrir sa vie, sa passion aussi. Et petit à petit, donc, à force d'aller-retour entre le présent et le passé, on va découvrir cette histoire-là. Et c'est une des grandes habiletés du romancier, c'est de nous amener constamment du passé au présent. Et il ne nous dévoile jamais tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il nous donne certains éléments d'information qui nous permettent un peu de comprendre le personnage, mais... Il va revenir 100 pages plus loin pour développer
Est-ce qu'on a envie d'aller 100 pages plus loin pour savoir? Parce que ça arrive dans les bouquins.
Non,
parce
que
c'est très frustrant.
On est trop pris par le style. Okay, et l'intérêt de la lecture vient beaucoup de l'appréciation de l'écriture. Je peux vous en lire un petit bout.
On aimerait ça, oui, absolument.
Je change mes lunettes parce que pour lire,
allez-y,
ça me
Luc.
Prend un peu d'installation. Alors, voilà. Alors, il va décrire justement, il va parler des ravages de la guerre. Ça me prend un petit peu de lumière.
Ah.
C'est beau. Alors, il va parler des ravages de la guerre. Parce que ça se passe donc au moment où Madrid va être prise. Alors, il va le dire. Il y avait une chose que son métier lui avait apprise. Il faut longtemps pour qu'un bâtiment finisse par être achevé, parce que les choses grandissent avec une lenteur organique, quels que soient les efforts qu'on y consacre, mais l'instantanéité de la destruction est éblouissante. Le jet d'essence et la flamme qui monte et dévore tout, le coup de feu qui abat un homme fort comme un arbre. Il lui disait que ce qui l'étonnait le plus était de s'être tellement trompé sur lui-même, se croyant un rationaliste, un pragmatique, assistant avec ironie aux délires idéologiques de ceux qui prédisaient avec le plus grand sérieux l'imminence de la dictature du prolétariat ou du communisme libertaire, de ceux qui étaient convaincus qu'en abolissant l'argent et en pratiquant le nudisme ou l'espéranto ou l'amour libre, on instaurerait le paradis sur terre, des idolâtres de Staline ou de Mussolini, de ceux qui criaient le poing fermé ou la main ouverte. En se croyant lui-même sceptique, Il avait été plus rêveur que n'importe lequel d'entre eux, en s'imaginant qu'il ne s'occupait que de ce qui pouvait être calculé et mesuré, de ce qui produisait un bienfait modeste, mais indiscutable, un progrès. Et donc, dans ce... C'est vraiment... Et là, c'est une phrase courte là, que je viens de dire. C'est vraiment ce qui est absolument éblouissant, c'est qu'il nous amène en cours d'un même paragraphe. Il commence, par exemple, son paragraphe en nous parlant de sa relation avec Adela. Et là, peu à peu, le sujet va dévier. Un peu comme ce qui se passe quand on est dans notre tête et que c'est notre inconscient qu'on erre. Mais là, il le fait par écrit. Et à la fin du paragraphe, il va tout d'un coup, on se retrouve... dans un commentaire sur la guerre, par exemple. Et là, il va enchaîner dans un paragraphe qui suit et il va nous revenir ensuite dans le présent, dans le passé. C'est un flot, on se fait bercer, on se fait emporter. C'est un roman aussi qui nous parle de drame humain, bien sûr, parce que cet homme-là est déchiré, il a deux enfants, il a une femme qu'il quitte et il découvre la passion pour la première fois. Mais aussi, c'est un roman qui évoque la guerre, les atrocités de la guerre. On en évoque ici un aspect. Et évidemment, les pertes matérielles ne sont pas les pires. Et donc, lui, il va être déchiré. On comprend que s'il qu'il a quitté finalement l'Espagne, c'est oui pour retrouver la femme qu'il aimait passionnément, mais c'est aussi parce qu'il a été forcé, il a été séparé pendant la guerre de sa femme et de ses enfants. Et au moment où les franquistes donc, ont envahi Madrid, il se retrouvait, lui et les autres membres de sa famille, de part et d'autre d'une frontière qui était à peu près infranchissable à ce moment-là. C'est donc assez proustien, comme à la fois dans la langue, qui est très, très longue, très sinueuse, et aussi dans l'analyse psychologique, parce que il y a à la fois beaucoup d'action, mais dans le présent des événements qui est raconté, c'est presque rien. C'est le voyage en train pendant les trois quarts du roman. Et ensuite, donc, dans la dernière partie, il va avoir cette fameuse rencontre-là entre ces retrouvailles entre Judith Biellé et Ignacio Abel.
On va rappeler le titre du livre et son auteur, Luc Mercure, « Dans la grande nuit des temps » de Antonio Muñoz, M-U-N-O-Z, bon, avec un petit tilde là au milieu, mais peu importe, M-U-N-O-Z, Molina, comme ça se prononce, M-O-L-I-N-A. Merci beaucoup, Luc Mercure. On
ça
se retrouve bientôt.
J'espère.
Votre quatrième va se lire, enfin, du moins celui disponible va se lire bientôt, peut-être.
Je ne sais pas. J'ai un livre qui vient de sortir, mais c'est pas sûr encore qu'il va être lu.
Moi, je suis convaincue.
On verra.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
C'est l'heure de la chronique que j'appelle de bouche à oreille, la page de littérature que je pourrais aussi appeler teaser pour l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons recevoir entre autres Michel Lecomte, qui est bénévole aussi ici, qui est moniteur, avec qui je travaille assez régulièrement pour enregistrer des livres. Et Michel Lecomte est un passionné de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon qui a entre autres écrit ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle « Le quatrième mur », qui a reçu cette année le prix des libraires du Québec 2014 dans la catégorie « Roman hors Québec ». Je vais vous lire ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. Ça va vous donner une très très bonne idée de ce qu'est ce livre avant que Michel vienne nous en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. L'idée de Samuel était belle et folle, monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler 2 heures à la guerre en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ses ennemis sur une scène de fortune entre cours détruites et jardins saccagés. Samuel était grec, juif aussi, mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre à moi, le petit théâtreux de patronage, et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix, avant que la guerre ne m'offre brutalement la sienne. Michel Lecomte vous en parlera beaucoup plus volontiers. Ben, moi, je vous en parlerai volontiers aussi parce que j'ai adoré ce bouquin, mais Michel, il ne se peut plus à l'idée de venir. Je voudrais, si vous me le permettez, vous en lire le début, le tout début de ce livre, « Le quatrième mur » de Sorge Chalandon. Tripoli, nord du Liban. Jeudi 27 octobre 1983. Je suis tombé. Je me suis relevé. Je suis entré dans le garage, titubant entre les gravats. Les flammes, la fumée, la poussière, je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge. J'ai fermé les yeux, les mains sur les oreilles. J'ai heurté un muret, glissé sur des câbles. La moitié du plafond avait été arrachée par l'explosion. Le ciment en feu frappait tout autour avec un bruit de claque. Derrière une carcasse de voiture, un trou, une crevasse de guerre, un bitume ouvert en pétales jusqu'à son cœur de sable. Je me suis jeté dans les éclats comme on trébuche, corps chiffon, le ventre en décombre. Je tremblais. Jamais je n'avais tremblé comme ça. Ma jambe droite voulait s'enfuir, me quitter, une sauterelle apeurée dans les herbes d'été. Je l'ai plaquée à deux mains sur le sol. Elle saignait, ma jambe folle. Je n'avais rien senti. Je croyais que la blessure et le blessé ne faisaient qu'un. Qu'au moment de l'impact, la douleur hurlait son message. Mais c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ni le choc, ni le mal. Seulement mon jus poisseux. Mon pantalon était déchiré. Il fumait. Ma jambe élançait comme une rage de dents. Ma chemise était collée de sueur. J'avais pris mon sac, mais laissé ma veste dans la voiture de Marouane, mes papiers, mon argent, tout ce qui me restait. Je ne pensais pas qu'un char d'assaut pouvait ouvrir le feu sur un taxi.
La vie, l'amour, la mort. C'est beau, la vie. Comme un nœud dans le bois. C'est bon, la vie. Bu au creux de ta main. Fragile aussi. Même celle du roi. C'est dur, la vie. Vous me comprenez bien, c'est beau l'amour, tu l'as écrit sur moi. C'est bon l'amour, quand tes mains le déploient. C'est lourd l'amour, accroché à nos reins. C'est court l'amour. Et ça ne comprend rien, c'est fou la mort, plus méchant que le vent, c'est sourd la mort, comme un mort sur un banc, c'est noir la mort, et ça passe en riant, c'est grand la mort. C'est plein de vie dedans.
Des nouvelles et des livres.
Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'avais décidé de diffuser un petit bout de Félix qu'on retrouve toujours beaucoup avec plaisir, même si ça craque un peu, même si c'est un vieil enregistrement, ça a son charme. Hein. Et j'avais décidé de diffuser ça parce que sous la rubrique des nouvelles et des livres, je voudrais revenir sur cet article que j'ai trouvé et qui annonce un festival qu'on aime beaucoup, qui est important, qui est à Trois-Rivières, qui est le festival de poésie, de mots à Trois-Rivières. Ça va avoir lieu prochainement du 3 au 12 octobre et ce festival de poésie fête ses 30 ans à Trois-Rivières. Et cette année, on fête surtout la mémoire de deux personnes qu'on adore, deux auteurs, deux poètes, en l'occurrence Félix Leclerc, qu'on vient d'entendre, mais aussi Gérald Godin. Alors, de Félix, eh bien, cette année, vous le savez peut-être, on en a parlé, c'est le centième anniversaire, enfin, ça aurait été le centième anniversaire de sa naissance, et c'est aussi le 20e anniversaire du décès de Gérald Godin, qui, lui, était originaire de Trois-Rivières. Ça, j'ignorais ça. Alors, quand j'ai lu ceci sous la plume de Catherine Lalonde dans Le Devoir, je me suis ruée pour aller voir ce que nous avions au SQLA. Alors, de Gérald Godin, j'ai une bonne nouvelle parce qu'en ce moment, en traitement, au SQLA, il va y avoir L'Ange exterminé qui a été relu ici par quelqu'un. Je dis bien que c'est en traitement. Quand on dit que c'est en traitement, c'est, au moment où l'émission est diffusée, peut-être même qu'il est disponible, mais c'est une question, peut-être pas d'heure, mais de jours, c'est certain, de Gérald Godin. Sinon, il y a ce recueil de poèmes, il ne demandait qu'à brûler, de Gérald Godin, qu'on peut trouver à la bibliothèque de l'INCA. Et alors, de Félix Leclerc, il y en a aussi une multitude, et pourquoi ne pas nous replonger dans l'œuvre écrite de Félix, Adagio, les contes, Allegro et Andante, toute cette poésie-là qu'on trouve au SQLA. Dans le cas d'Andante, il va y avoir un nouvel enregistrement qui est également en traitement et qui va sortir prochainement. Donc voyez-vous, là aussi, on fait des classiques, on ne ressort pas que des nouveautés, c'est intéressant. Sinon, de Félix aussi, Le calepin d'un flâneur, sans chanson. Le fou de Lille, qu'on peut trouver dans deux versions. Il y en a une au SQLA et l'autre à l'INCA. Et également dans deux versions, SQLA et INCA, Pieds nus dans l'aube. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être sympa, que ça pourrait vous donner envie de retomber dans... j'aime pas l'expression de tomber, mais oui, pourquoi pas, dans l'univers de Félix Leclerc et Gérald Godin.
Quelques nouveautés en rafale.
Là, c'est l'heure où je vais donner quelques titres de nouveautés. Donc vraiment, ce sont des livres qui viennent juste d'arriver tout chaud. Ceux que je vais vous donner là, ils sont arrivés depuis le mois d'août au SQLA, donc c'est vraiment très très récent. Je voudrais d'abord parler de ce livre, Le dilemme du prisonnier. Vous connaissez peut-être Richard Powers. C'est à lui que l'on doit cette œuvre magistrale qui s'appelle Le temps où nous chantions. On a failli recevoir Jean Barbe ici à l'émission pour nous en parler. Ça ne s'est pas fait, mais ça se fera peut-être à un moment donné. Et le dilemme du prisonnier, l'histoire, on est dans la fin des années 80, en Illinois. On parle d'un père de famille qui est Eddie Hobson, qui est marié avec Eileen et leurs quatre enfants. Ils ont toujours formé un clan très soudé, mais soudain, Eddie est frappé par une étrange maladie. Et là, tout d'un coup, la mécanique familiale se dérègle et les secrets de ce père, pas comme les autres, font peu à peu surface. On se demande par exemple pourquoi ce professeur d'histoire charismatique a-t-il élevé ses enfants aujourd'hui adultes dans l'amour de la culture, du divertissement, des énigmes et des jeux d'esprit. D'ailleurs, il paraît qu'il y en a partout. Dans ce livre-là, les enfants et les parents parlent beaucoup avec des mots d'esprit. Est-ce que vous l'avez lu?
Non,
ni l'un ni l'autre. C'est de Richard Powers. C'est une toute petite citation ici peut-être. Parce que, ah oui, il faut que je dise que petit à petit, l'histoire du père se dévoile et avec elle, c'est tout le XXe siècle qui défile, de l'exposition universelle de New York en 1939 aux essais nucléaires de Los Alamos, en passant par un projet grandiose de Walt Disney, destiné à entretenir l'optimisme des populations durant la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, parce que ça existe aussi. Alors, il y a une citation, justement. « L'homme derrière la souris ne possède pas le quart de sa notoriété. Disney produit le couinement aigu connu à travers le monde, mais au téléphone, sa propre voix passe inaperçue. Il apparaît en photo dans des centaines de magazines, de journaux et de films d'actualité, mais toujours en compagnie de sa créature. Sans Mickey à ses côtés, d'innombrables admirateurs à qui il a rendu le présent supportable le croisent dans la rue sans se douter de rien. » Et puis le temps où nous chantions, là encore, hein, c'est une famille recomposée. Ça, c'est une histoire incroyable. C'est un livre magique. Il faut lire ce livre-là. C'est une brique monumentale, mais il ne faut pas se laisser décourager par la taille du livre. C'est plus de 1000 pages sur papier. Alors, ça représente 45 heures de lecture audio. Et ça, c'est la rencontre entre un physicien juif allemand et une femme noire, une jeune femme noire. Et ils se marient, ils élèvent trois enfants. Et ils les élèvent dans le culte exclusif de la musique. Si vous aimez la musique, entre autres, c'est absolument phénoménal. Et bon, alors c'est une éducation qui va avoir des conséquences diverses hein, sur les trois enfants. Il y en a un qui va devenir ténor de renommée mondiale. Il y en a un autre, une autre plutôt, qui va rejeter les valeurs de la famille complètement, elle, pour adhérer au mouvement des Black Panthers. Et puis le frère Joseph qui va tenter de garder le cap entre l'aveuglement des uns et le débordement des autres. Il y a aussi le fait qu'évidemment, ces enfants-là sont métis et il y en a qui sont plus noirs que d'autres. La jeune fille, par exemple, est très noire. Les autres sont plutôt très blancs. Donc, ça crée des drôles d'ondes et d'atmosphères dans cette famille-là. Par exemple, tenez une citation. Elle était très noire. D'un noir tellement noir qu'il n'a rien à voir avec ses mulets de fils. D'un noir imposé, d'un noir comme un refuge. Noir par la mémoire et noir par l'invention. Chaque jour sur la défensive, à esquiver avec le sourire. Le fruit de 20 générations de violence intégrée. À ployer sous les coups. Même quand on croyait ne pas ployer. Pas une journée ne se passait sans qu'elle ait à ravaler sa salive, sans qu'elle soit obligée de se remémorer ce joyau intérieur qui la protégeait. Et pourtant, elle était claire de peau, de chevelure, de traits, d'aspect extérieur, comme sa fille métisse qui se déteste de n'être pas plus simple. Noire, Ruth, elle était noire. Ah là là. Bon, allez, un autre domaine complètement pas facile, je vous le dis tout de suite, ça s'appelle l'ablation. Et on parle là de l'ablation de la prostate. Non, non, je ne plaisante pas, c'est Tahar Ben Jelloun qui a écrit ça. Il a été témoin de cette horreur qui est arrivée et qui arrive à beaucoup d'hommes dans la vie. Et c'est arrivé à un de ses amis et il l'a suivi pendant un an et demi, je pense. Mais vraiment accompagné dans toutes ces pérégrinations hospitalières. Il dit, je suis devenu, et là c'est Tahar Ben Jelloun qui parle, il dit, je suis devenu l'ami avec le professeur d'urologie qu'il suivait. L'idée d'un livre s'est imposée peu à peu, un livre utile, qui rendrait service aux hommes qui subissent cette opération, mais aussi à leur entourage, leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, qui ne savent pas comment réagir. Mais la situation était délicate, fallait-il, comme le demandait mon ami, tout raconter, tout décrire, tout révéler. Après réflexion, j'ai choisi de tout dire. Donc je pense que c'est un livre important. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans mes rafales. Ça s'appelle « L'ablation » de Tahar Ben Jelloun. Et puis, c'est la suite logique. C'est un livre qui s'appelle « Apprivoiser la douleur et la souffrance autrement et plus qu'un livre ». C'est un véritable coffre à outils que nous proposent Michel Dufour et Jean Lamarche. Ces deux auteurs sont originaires de Lac à la Croix et de Jonquière et sont respectivement médecins et orthopédagogues. Et ils ont voulu simplifier la compréhension du phénomène de la douleur et nous amener à des moyens pour s'en... Peut-être pas pour s'en débarrasser, mais pour vivre avec. Alors, je vous rappelle le titre, « Apprivoiser la douleur et la souffrance autrement » par Michel Dufour et Jean Lamarche. C'est déjà la fin de l'émission. Chantal Lamarre, merci infiniment d'être venue. À une prochaine fois, je l'espère. Luc Mercure, merci aussi beaucoup. À votre prochain livre, c'est sûr, je vous accueille de nouveau et même avant. Jean-Sébastien La Liberté de l'autre côté, dans l'aquarium, merci beaucoup pour l'aide et pour la musique et pour tout ça. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et puis restez à l'écoute de Canal M. Merci infiniment, bonne lecture.